Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 36, le chapitre 390 de Mission Encre Noire qui commence. Je ne les ai pas reconnus tout de suite. Ils étaient quatre ou cinq à s'activer autour de la première arche terrestre du pont Saint-Laurent. L'un d'eux l'escaladait, ou en redescendait plutôt, se balançant à deux pas de l'eau, mal assuré le long d'une corde glissant sur la poutrelle d'acier du tablier. Des bums à l'air louche. Il disait appartenir à la brigade des ponts. « Pas dangereux », clamait-il, mais en guerre contre les trains, les automobiles, les ponts, surtout qu'ils accusaient de tous les maux en les taguant de poésie. Pour celui-ci, ils avaient choisi un vers de Pierre Perrault. Les ponts, pris sur le fait, en flagrant délit d'île, la main dans le sac d'un vieux rêve de rivière, les ponts ancrent ma ville à de faux départs. La voltigeuse, car c'était en fait une femme, avait une ceinture de bombe de peinture à la taille. C'est elle qui avait tracé les lettres bleues pétant que je pouvais lire distinctement en haut de l'arche. Salopette rapiécée, casque de mineur sur la tête, les yeux noirs, elle s'est plantée devant moi pour déclarer « Il faut rendre son insularité à l'île, un jour on les fera sauter s'il le faut. » J'avais envie de l'embrasser. Mais les autres étaient déjà sur leur vélo et le chef de la bande a gueulé « Magne-toi, Châteauguay, faut filer !» Oui, il avait pris un sacré coup de vieux, mais c'était bien un mille-mille. Parmi les fluviaux qui l'accompagnaient, j'ai reconnu aussi le jeune punk du pont Papineau le Blanc. Mais elle, impossible que ce soit Châteauguay. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « J'habite une île » par Rodolphe Lannes, paru en 2022 aux éditions Leméac. Montréal, 50 km de long, 16 km de large, 483 km² de superficie, 266 km de berge, 2 millions d'habitants. Connaissons-nous vraiment notre île ? Quand avez-vous vu pour la dernière fois le bord de l'eau ? Je veux dire, quand avez-vous pris le temps de cheminer lentement sur ses berges, de humer ses parfums, d'essayer d'en saisir son ADN, son âme insulaire ? Cette île-ville, qui généralement néglige son fleuve et le dérobe à la vue de ses habitants, Rodolphe Lannes l'a arpenté. Il décide de faire son tour de l'île à pied d'une seule traite, sans retour à la maison en sens inverse des aiguilles d'une montre. Départ du vieux port, pour mieux remonter le temps, des origines vers l'est, puis rejoindre l'aval des rapides de la Chine vers l'ouest. L'homme du fleuve ne lâchera pas son eau des yeux. Rodolphe Lannes vous propose ni plus ni moins de vous projeter en état de voyage, ici même, près de chez vous. Sac à dos léger, un carnet à portée de main, des bâtons et des chaussures de marche. Avec en prime une paire de lunettes glaciers qui lui permettent de ne jamais perdre le fil du temps, de l'histoire et des mots, plus précisément ceux de Pierre Perrault, des Cageux de la Bord à Plouf ou de Régent du Charme. Pourquoi faire le tour de l'île à pied, me direz-vous ? L'auteur vous répondra « Pour aborder les rivages, pour que les paysages se transforment en histoire ». Je reçois Rodolphe Lannes ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Eric.
Rodolphe, tu es né en France. La passion du voyage te prend dès 17 ans. Tu commences à voyager de tes propres ailes jusqu'en Turquie. Tu as vécu en Arabie Saoudite et en Irlande avant de t'installer à Montréal. Un premier voyage au long cours t'a conduit du sous-continent indien à Istanbul par la terre, via le Népal, le Pakistan et l'Iran. Un deuxième voyage de près d'un an t'a fait découvrir l'Amérique du Sud et de réaliser un rêve de toujours, traverser l'Atlantique à la voile. En 2013-2014, tu parcours les routes d'Asie pendant un an. Et depuis 2005, tu es auteur de nombreux guides et reportages de voyage. Tu as publié 3 romans aux éditions Leméac, Extrait du carnet d'observation de la femme en 2008, Oubré en 2011 et Pinsonia en 2018. Et ce récit de voyage géopoétique, J'habite une île, paru en 2022. Alors je vais être trivial pour commencer. C'est quoi une île? Ou plutôt, qu'est-ce que cela veut dire être un ilien, surtout dans un endroit comme Montréal? D'ailleurs, j'ai remarqué que tu écrivais l'île ISLE. Pourquoi?
Mais en fait, c'est clair que la définition d'une île, ça peut être très large. En fait, je vais commencer. Montréal, l'île de Montréal, je précise, pour bien la différencier de la ville de Montréal, et à plusieurs noms, en fait. On peut penser au nom autochtone, entre autres, Tiotagé, entre autres. Et moi, pour ne pas avoir à choisir entre ces différents noms, et pour peut-être aussi simplifier la lecture, pour éviter de répéter l'île de Montréal à chaque fois, je pense que j'ai voulu avoir ce petit nom que je créais juste pour ce récit, donc avec l'île, donc qui effectivement a une sorte de rappel aussi de l'histoire de l'île de Montréal qui doit son nom actuel à l'arrivée des colonisateurs français au 15e siècle.
Alors, J'habite une île reprend le même titre du livre de Pierre Perrault, paru en 2009 chez l'Hexagone. Une de ses citations ouvre le livre, d'ailleurs. Alors, pour quelle raison cet emprunt? Est-ce que pour toi, c'est une référence très claire? Est-ce que c'est un récit, disons, indépassable, ou c'était surtout sa démarche qui t'a intéressé?
Moi, c'est plutôt sa démarche qui m'a intéressé. En fait, j'ai commencé ce projet et en faisant mes recherches pour ce projet de Tour de l'île, je suis ensuite tombé sur le bouquin de Pierre Perrault, qui est en fait le livre de Pierre Perrault, qui est en fait une retranscription de ses émissions radio qu'il avait fait dans les années 60-70, qui s'appelait J'habite une ville, et qui était vraiment en relation avec la ville de Montréal. Et en fait, lui, dans son émission de radio, qui est passionnante, que malheureusement, qui est très difficile à retrouver maintenant, même au niveau des archives de Radio-Canada, en fait, il interrogeait plutôt des Montréalais pour essayer de prendre le pouls de la ville. Donc aussi bien pour essayer de comprendre, de faire une sorte de cartographie peut-être littéraire d'un certain Montréal, donc qui est quand même aussi d'une certaine époque. C'est un peu, on se rappelle que Pierre Perrault, effectivement, est très intéressé par le documentaire, aussi bien au niveau radio qu'au niveau cinématographique. Et donc ces récits permettaient d'avoir une sorte d'instantané de la ville de Montréal à une certaine époque. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est un petit peu son aspect cinématographique, documentaire direct, qui allait directement voir les gens, qui allait sur le terrain, qui s'inspirait vraiment de la réalité du terrain.
Alors, comme tout bon marcheur et voyageur, tu prépares ton lectorat à la marche. Alors, il y a une carte d'ailleurs répertoriée dans le livre, mais également une référence à ton blog sur le net, où il est possible de suivre ton cheminement grâce à des photos que tu as prises durant ton reportage. Alors, pourquoi ce complément photographique?
En fait, c'est juste dans la genèse un peu de ce tour de l'île et de ce récit de voyage. Quand j'ai fait ce tour de l'île à pied, donc c'était en septembre 2019, je n'avais pas encore en tête d'en produire un récit tel qu'il s'est réalisé par la suite. Je travaillais en fait sur une sorte de compilation de petits récits de voyage, et le tour de l'île ne devait être qu'un chapitre dans cet ouvrage. Finalement, à la suite de la marche et à la suite des recherches que j'ai faites subséquentes, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un matériel vraiment très important qui était à même de devenir un livre à part entière.
Tu utilises cette expression « se projeter dans un état de voyage ». Qu'est-ce que cela veut dire, se projeter dans un état de voyage?
Pour moi, en fait, c'était aussi le but de faire ce voyage d'une traite en, en 5 jours, c'était aussi justement de pouvoir me projeter dans un état de voyage, c'est-à-dire d'être en état de voyage, de me sentir en voyage à Montréal, donc dans la ville et sur l'île où j'habite depuis une vingtaine d'années. Donc une sorte de voyage local, même si c'était un voyage local, de pouvoir me sentir comme si j'étais en Asie ou en Amérique du Sud. C'est clair, quand on est à l'étranger, quand on est loin, quand on est dans des endroits qui sont complètement en dehors de nos repères, on se sent tout de suite ailleurs, on sent un certain exotisme, on est confronté à une culture complètement différente, et c'est souvent ça qui nous permet, justement, quand on est loin de chez nous, de nous projeter en voyage, de se sentir en voyage. Je parle du principe que le voyage local peut être aussi peut nous apporter aussi cette même sensation-là. Et en fait, mais elle demande peut-être un peu plus d'effort de la part du voyageur, c'est-à-dire d'être beaucoup plus ouvert à ce qu'il voit, de ne pas prendre tout pour acquis, et donc d'avoir un certain regard par rapport à ce qui l'entoure, même si c'est beaucoup, si l'exotisme du lointain n'est pas vraiment là. Donc c'est pour moi, c'est un petit peu l'idée de se projeter en voyage.
Oui, l'exotisme du lointain, on y reviendra un petit peu plus tard. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que tu as une autre influence, et non des moindres également, c'est celle de Jean Rollin, puis elle n'est pas prise au hasard, celle-là. Tu cites également Nicolas Bouvier. Pourquoi j'en parle ? Parce que précisément, il traite de géopoétique, comme tu le fais toi aussi. Alors, je ne sais pas si la géopoétique, c'est quelque chose qui t'attire par nostalgie de lecture de jeunesse façon Joseph Kessel ou Blaise Cendrars. Pourrais-tu en faire ta définition ? De quoi s'agit-il ? Et est-ce vraiment le cœur de ta démarche ?
Oui, je pense que c'était pas mal au cœur de ma démarche, aussi bien pendant le voyage et pendant l'écriture. La géopoétique en deux lignes, c'est vraiment un très 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 résumé. C'est vraiment un courant de pensée qui a été créé dans les années 80, pardon, par Kenneth White, et qui invite tout le monde à repenser son rapport au monde. Donc à la terre géo, et poétique, non pas pour la poésie, mais plus largement pour tout ce qui peut être poétique, mais aussi bien pour essayer de voir un peu tout ce qui est beau autour de nous. Et c'est aussi, la géopoétique, c'est une sorte de philosophie qui invite les gens à repenser leur relation au monde, à être plus présent au monde, à arrêter de considérer l'être humain comme le centre du monde et remettre en question le rapport d'exploitation de la nature.
Alors comment justement envisages-tu ces 160 km et ces 5 jours de marche, dont le décompte d'ailleurs figure en tête de chaque texte ? Y a-t-il justement, dans la démarche de géopoétique, y a-t-il plutôt un souci de documentaire, ou est-ce que l'écrivain prend le rôle, je dirais, de glaneur d'histoire, ou bien est-ce aussi le citoyen l'âne qui désire faire un bilan de l'endroit où il vit ?
C'est un peu les trois, en fait. Le gros avantage, peut-être, de la géopoétique, c'est que son créateur, Kenneth White, a toujours refusé d'en faire une définition précise. Donc, on peut peut-être, justement, se faire, c'est un peu sa propre définition pour aller un peu dans les différents sens qu'on veut. Certain que la géopoétique, telle qu'on l'entend, et telle que, par exemple, l'association La Traversée, qui est l'association de géopoétique québécoise, la documentation est très importante. La documentation aussi bien historique que scientifique, pour essayer de nommer avec le plus de précision possible ce qui nous entoure. Donc, aussi bien, par exemple, dans mon récit, j'ai vraiment essayé d'éviter d'utiliser le mot « arbre ». Ce n'était pas un arbre, c'était un frêne, c'était un érable. Et donc toute cette précision-là, en fait, fait en sorte que le territoire qui nous entoure ne devient pas anonyme et devient vraiment beaucoup plus précis et beaucoup plus concret par rapport à un récit qui pourrait juste se baser sur des approximations.
Alors, tout à l'heure, tu parlais d'exotisme lointain, on y revient. Tu dis que tu rêves de mettre le Saint-Laurent au niveau de la Volga, du Danube, dont le débit est parfois plus présent, le débit du Saint-Laurent est plus présent que celle de ces deux fleuves. Est-ce que c'est une manière de dire qu'on parle mal du fleuve? Est-ce que c'est aussi pour dire que on ne s'y intéresse pas trop?
Oui, je pense qu'effectivement, on s'y intéresse, en tout cas pas assez. Un exemple concret, au niveau de Montréal, ce qui est peut-être pas vrai dans toute la course du Saint-Laurent, mais au niveau de Montréal, le manque d'intérêt qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir au niveau du Saint-Laurent est flagrant. Si on prend par exemple d'un point de vue juste touristique, on s'aperçoit qu'il y a très très peu d'établissements de restauration ou hôteliers qui profitent de cette vue-là. Et donc dans tout mon tour de l'île, j'ai vraiment été très surpris de voir à quel point le Saint-Laurent était un petit peu oublié, mis de côté. Il y a des grands tronçons évidemment autour du port de Montréal qui sont interdits au public, bon, ce qui se comprend plutôt bien. Mais après, il y a aussi beaucoup de tronçons aussi bien du côté de la rivière des Prairies que du côté du Saint-Laurent qui sont totalement privatisés, donc inaccessibles. Donc c'est oui, je pense qu'on a un effort à prendre on doit faire un effort pour justement se réapproprier ces rives-là, profiter beaucoup plus du Saint-Laurent et de l'eau qui nous entoure. Je pense que il y a eu depuis quelques années, en fait, quand même pas mal d'initiatives. On peut penser aux plages qui ont vu le jour à Verdun, qui ont vu le jour à Pointe-aux-Trembles. Il y a des, maintenant, on peut profiter aussi des navettes maritimes qui donnent un accès au fleuve vraiment concret. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour ne pas voir le fleuve comme une sorte de barrière entre la rive sud et Montréal, et vraiment beaucoup plus comme sinon un terrain de jeu, mais en tout cas un paysage dont on pourrait profiter beaucoup plus.
Alors le livre, évidemment, regorge d'anecdotes succulentes, mais est-ce que tu pourrais nous dire un mot justement sur cette arrivée des cageuses? Ça devait être un moment assez, comment dire, extravagant quand ils débarquaient à Montréal.
Ouais, tout à fait. Mais c'est des informations que j'ai trouvé entre autres par justement les émissions de radio Le Livre de Pierre Perrault, où Pierre Perrault, donc dans les années 70, donc interrogeait une personne qui était déjà d'un certain âge et qui, lors de son enfance, avait vu les derniers cageux passer au début du XXe siècle, passer sur la rivière des Prairies, et donc qui se rappelait en fait de cet épisode. Les cageux, c'était quand même quelque chose. Donc les cageux passaient aussi bien, venaient de la rivière de l'Outaouais, descendaient de la rivière de l'Outaouais et se rendaient jusqu'à Québec en passant soit par le fleuve, soit par la rivière des Prairies. Donc c'était des cages de bois qui étaient énormes, gigantesques, et qui donc pour transporter le bois vers Québec et ensuite vers l'Angleterre. Savoir qu'à l'époque, donc là, il y avait un blocus européen pour empêcher les Anglais de construire des bateaux de guerre. Et donc, en fait, ce blocus européen a été détourné par les Anglais en puisant le bois à même les forêts du Québec. Donc, et ces cages qui ont navigué sur le fleuve et la rivière des Prairies pendant pas mal de temps, c'était vraiment des petits villages flottants où il y avait des violoneux, il y avait des tentes, il y avait des petites voiles pour les faire avancer, il y avait évidemment les cageux qui étaient des personnages complètement hors normes qui avaient plusieurs d'entre eux étaient quand même des forces de la nature et donc voilà, donc ça amène aussi beaucoup d'anecdotes croustillantes où justement le personnage qui est interviewé par Pierre Perrault raconte bien, dit très bien que que les mères serraient les filles de près quand les cageux arrivaient pour le soir. Donc c'était une certaine aventure de voir les cageux débarquer. Ouais.
À d'autres chapitres, tu traverses effectivement les nombreux ponts qui encerclent l'île de Montréal et sous les ponts, tu subis les agressions sonores et visuelles de ces ouvrages qui relient l'île au continent. Comment juges-tu ces endroits? Ils apparaissent dans le livre comme des zones de non-lieu où l'humain est invisible. Est-ce que tu les considères néanmoins comme des repères historiques, sociaux, culturels, de la même manière que d'autres, je dirais, d'autres endroits plus agréables?
C'est certain que les ponts, est-ce qu'une île qui est reliée par autant de ponts est encore une île? Est-ce que ça devient une presqu'île? Oui, très certainement. Je pense que s'il n'y avait plus du tout de ponts autour de Montréal, si on revenait au temps des traversiers qui permettaient de sortir de relier l'île au continent comme au XVIIIe siècle avant l'arrivée des premiers ponts, on aurait beaucoup plus l'impression d'être des insulaires. Mais bon, je pense que il y a personne qui voudrait enlever les ponts. Oui, ensuite, ce sont des sortes de non-lieux, ce sont des liens. Après, certains d'entre eux sont en même temps des œuvres au moins d'ingénierie, sinon d'art, quand on pense au pont Jacques-Cartier, quand on pense au nouveau pont Samuel de Champlain. Ce sont des ponts qui sont extraordinaires. Et oui, ça marque aussi un certain tournant dans l'histoire de Montréal. Évidemment, ça a pu accélérer les transferts et tout le transport des marchandises et des personnes entre l'île et le reste du pays, de la province. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez étrange aussi quand on passe en dessous des ponts. On n'a pas toujours l'occasion de passer en dessous des ponts. C'est un endroit qui est toujours un petit peu glauque, un petit peu étrange. On y fait des fois des drôles de rencontres. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et après, dans mon récit, moi, j'essayais, c'est pas que j'essayais, mais comme je voulais retrouver l'insularité de Montréal, donc je m'offusquais un petit peu contre ces ponts qui justement pour moi peut-être essayaient de, en tout cas d'une façon naturelle évidemment, enlever un certain degré d'insularité à l'île de Montréal.
Alors, des rencontres un peu particulières, tu en as fait quelques-unes, et une sous ces ponts-là d'ailleurs, tu croises une brigade des ponts. De qui ou de quoi s'agit-il?
Ah ben c'était une brigade des ponts, je veux dire peut-être un petit peu rêvée, c'est-à-dire que la brigade des ponts, en fait j'ai imaginé en fait les héros ou les contre-héros de du charme qui traînait au niveau de Montréal, du charme dans le nez qui voque qui a ces deux contre-héros qui sont je les ai imaginés en fait se révolter, tel que dans le livre en fait ils se révoltent contre les voitures, et là en fait je les imaginais se révolter contre les ponts en fait, oui, pour essayer de faire en sorte que l'île de Montréal redevienne justement une véritable île, donc sans les ponts qui l'attachent au continent.
J'habite une île coupée en deux, écris-tu. Le territoire anglophone est-il si particulier versus le territoire francophone? Et d'ailleurs, as-tu trouvé également des traces des premiers peuples autochtones sur l'île?
Très peu au niveau des traces autochtones, malheureusement, très peu, pas assez en tout cas à mon sens, ne serait-ce qu'au niveau de la toponymie, qui est quand même une trace historique qu'on peut ressentir quand on va quelque part, qui est directe et qui parle à tout le monde. Je crois que c'est à peu près 6 000 toponymes différents sur l'île de Montréal. Il n'y en a qu'une centaine qui sont en relation directe avec les traces autochtones. Donc c'est pour moi, je trouve que c'est une sous-représentation complète de cette présence qui a été bien plus longue que celle des colons qui sont arrivés à partir du XVIe siècle. Savoir que l'île de Montréal est habitée depuis à peu près 6 000 ans. Donc c'est certain, je trouve ça un petit peu dérangeant justement de ne pas laisser plus de place à l'histoire vraiment autochtone de Montréal.
Alors, ce qui est génial, on trouve beaucoup de toi aussi hein, dans ce livre. Tu glisses des références de tes lectures nombreuses, de tes expériences multiples de voyage. C'est une constante dans ta vie. J'ai noté également une référence au guide de voyage Ulysse qui ont marqué un tournant, j'imagine, dans ton parcours. Est-ce que tu distingues ta démarche d'écrivain dans ce livre de celle de l'auteur de guide?
Oui, bah, oui, tout à fait. C'est certain que je mentionne justement à un moment qui, déjà au niveau du regard, de ce que je recherche, c'est pas, j'ai le même regard intéressé et curieux quand je fais un guide de voyage. Mais par contre, ben, c'est peut-être pas les mêmes éléments que je dois retenir. Et donc là, ça me permettait justement en faisant ce récit de voyage, alors que c'est des endroits sur lesquels j'ai déjà écrit pour faire des guides de voyage sur Montréal. Et là, justement, je pouvais m'intéresser beaucoup plus à des détails, soit des détails historiques ou des détails qui peuvent paraître complètement anodin et qui moi me passionne mais qui n'ont évidemment pas leur place dans un guide de voyage. Après, la deuxième grande différence, c'est surtout au niveau de l'écriture. Un guide de voyage est très factuel et puis on a souvent même un nombre de mots restreint, donc évidemment c'est pas du tout le même but. Donc là, en fait, l'écriture sur Montréal, là, je pouvais justement me laisser aller à quelque chose de beaucoup plus poétique, beaucoup plus littéraire.
Alors évidemment, ce livre est aussi une invitation aux futurs voyageurs et voyageuses de se lancer sur tes traces. Alors, j'aimerais savoir si tu as quelques conseils, on va dire, basiques à leur donner. Et surtout, est-ce que tu présentes à nouveau ce voyage et ce livre dans des conférences, dans des bibliothèques actuellement ?
Oui, tout à fait. En fait, je présente ce livre dans les conférences. Actuellement, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps à Ville-Saint-Laurent. Et en fait, justement pour le bénéfice justement des personnes qui, parce que tout le monde n'a peut-être pas ni l'envie ni le temps de se lancer dans une longue randonnée comme ça. En fait, j'ai découpé en fait tout mon parcours en différents segments qui permettent de faire le tour de Montréal en plusieurs jours, mais d'une façon fractionnée, ce qui est quand même plus confortable, plus pratique pour beaucoup de personnes. Et oui, après, il y a au niveau des petits conseils que je peux donner. Il y a plusieurs segments qui sont plus intéressants que d'autres, peut-être, mais je dirais que marcher au milieu des raffineries de Montréal, c'est une expérience qui peut être intéressante aussi. Je trouvais que c'était justement très très intéressant, un peu sous le mode steampunk, un peu de Montréal, mais c'était après il y a des endroits qui sont beaucoup plus nature, entre autres du côté de Pierrefonds par exemple, on peut encore tomber sur des petits secteurs qui sont assez sauvages, qui sont complètement oubliés.
Voilà, chère auditrice, auditeur, surveillez peut-être la page Facebook de l'auteur, on ne sait jamais, vous auriez peut-être l'opportunité de voir en conférence Rodolphe et de prendre d'autres infos dans ce récit de voyage sur notre île de Montréal. L'écrivain va vous faire voyager loin et si proche en même temps, un périple qui vous tend littéralement les bras à deux pas de chez vous. Une autre façon de ne pas oublier ou d'apprendre où l'on vit au fil des kilomètres, au bord de l'eau, au bout des histoires et des mots dans ce magnifique récit de voyage. J'habite une île par Rodolphe Lane, paru en 2022 aux éditions Le Méac. Merci beaucoup Rodolphe d'être passé à Mission Encre Noire. L'éloignement du réel que crée le divertissement à outrance produit à son tour une anxiété sournoise, terrible. J'accuse ce cercle vicieux du divertissement d'avoir détruit en large partie mon noyau familial, d'avoir été le centre des discussions et des intérêts passifs de chacun. Ironiquement, Maintenant que mes parents sont séparés, ils consomment bien moins de télévision et s'en portent mieux. Certes, le petit écran, géant, n'était pas à l'origine du dysfonctionnement de leur ménage, mais le câble entretenait leur névrose conjugale, la canalisait, pour ainsi dire. Ne vous méprenez pas, je n'entends pas diaboliser la télévision. J'aimerais tout simplement exposer l'influence majeure de la culture du divertissement dans nos vies. Voir comment celle-ci peut être aussi fabuleuse que dévastatrice. Je suis optimiste de nature, et cette nature me permet de simultanément qualifier l'époque dans laquelle nous vivons en Amérique du Nord de prodigieuse, libre et destructrice. On ne fait pourtant pas ce qu'on devrait. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Derrière le voile anesthésiant, au fin fond de nos paradis artificiels, nous nous divertissons à mort. Ceci est un extrait de la culture du divertissement, art populaire ou vortex cérébral, par Sébastien Sainte-Croix-Dubé, paru en 2022 aux éditions Alias. Cette présente édition est une réédition en version augmentée de l'ouvrage paru en 2018 chez Varia. Qui de nos jours ne se permet pas un moment de relâche? On épluche Netflix, on allume la PS5, on déroule Facebook, voire Instagram ou TikTok. Jusque-là, tout va bien, ou à peu près. Si ce n'est que la journée se termine. Nous avons passé 3h30 de consommation télévisuelle, 1h40 de radio, 2h de réseaux sociaux, 1h sur YouTube, 30 minutes de jeux vidéo, une consommation totale de médias électroniques de 11h par jour par Américain en 2016, qui s'élève à 12,5 au cours de la pandémie. Qu'est-ce donc qui nous pousse à tant rechercher le spectaculaire? Que se cache-t-il derrière notre surconsommation de divertissement? Sébastien Sainte-Croix-Dubé s'inscrit dans la lignée de Guy Debord, de Jean Baudrillard, de David Foster Wallace, de Gilles Lipovetsky, voire George Lucas, pour tenter de définir ce que représente cette culture du divertissement, pour être à même de la comprendre et d'être capable de se prémunir contre ses effets néfastes. Nous rejoignons la lumière ou le côté obscur de la force ce soir aux côtés de Sébastien Sainte-Croix-Dubé, qui est invité à Miss Encre Noire. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien. Toi, tu es essayiste et romancier. Tu as publié Les Rosemonteries chez Triptyque en 2020, que l'on a présenté ici même à Mission Encre Noire. Ta bio précise « Jeune père et vieux consommateur de culture populaire, tu écris pour survivre aux accélérations bizarres de notre siècle et surtout par passion et tu enseignes présentement au collégial. Alors, pourquoi choisir de republier une version augmentée aujourd'hui? Est-ce que le monde a-t-il tant évolué depuis 2018?
Ah, c'est une bonne question. Déjà, quand je l'ai écrit en 2018, TikTok n'existait pas. Donc, la réponse est oui, définitivement. Le divertissement numérique a quand même évolué. Et c'est surtout que c'est une longue réflexion qui date quand même depuis 2010-2012. Donc, en 2017, ce que j'avais publié, je sentais que je pouvais aller un peu plus loin, mais bon, les causes éditoriales et tout. Et c'est surtout que ça m'a permis d'avoir un recul de 4 ans. Et ça, c'est précieux. Un recul de 4 ans pour un penseur, c'est une chance rare que les éditeurs, l'éditeur m'a permis de prendre. Donc, ils ont accepté que je retouche le texte. Ils ne savaient pas que j'allais retoucher à peu près tous les paragraphes. Mais ça, c'est pas grave. Ça a été fait. Donc, oui, un bon trentaine de pages de plus, beaucoup plus de nuances aussi, des certains trucs qui ont changé. Par exemple, l'hashtag MeToo était tout frais, alors que ça fait quand même un bon 4 ans maintenant. Et voilà. Plein de choses comme ça que j'ai pu changer à l'intérieur du texte.
The National, TV on the Radio, Simon & Garfunkel, Frank Zappa, Dead Kennedys, Eminem, Pixies, Nirvana, Radio, Hatsune Miku et Eddie Vedder de Pearl Jam sont des artistes qui illustrent les différents chapitres de cet essai. Les considères-tu comme faisant partie de ta définition de la culture du divertissement?
Oui, définitivement. D'ailleurs, il y a une grande distinction que je fais d'emblée dans l'essai, hein. Divertissement actif ou divertissement passif. Et on pourrait longuement définir, mais par divertissement actif, c'est que j'implique quand même un divertissement qui se met dans une position donc de détente, mais qui active d'une façon ou d'une autre à certains moments par des individus ou des groupes donnés à un moment, mais bref, qui active certaines zones, que ce soit un propos social, que ce soit tout simplement une évolution, une idée qui mature à l'intérieur d'un individu, bref, qui active quelque chose à l'intérieur de nous, à l'intérieur de groupes, et je crois qu'effectivement, ces artistes, ces groupes-là musicaux ont fait ça. Leurs textes en témoignent, leur musique en témoigne.
Alors, n'oublions pas l'interligne du titre, art populaire ou vortex cérébral. Alors, j'imagine que ta réflexion s'appuie en partie sur le courant de recherche des études culturelles, les fameuses cultural studies. Les cultural studies pour lesquelles la culture populaire revient à étudier la culture du pauvre et qui se définit comme une antidiscipline plutôt portée sur la critique de rapport entre culture et pouvoir. Est-ce le cas ici, dans cet essai? Est-ce une critique de rapport entre culture et pouvoir?
Bonne question. Oui et non. Je crois... Oui. Donc, oui et non. Je crois que effectivement... Donc, je crois plus qu'il y ait de haute et de basse culture. Ça, ce n'est pas nouveau comme principe. Les cultural studies sont déjà là-dedans. Maintenant, où est-ce que l'essai, où est-ce que j'essaie de cerner dans l'essai, c'est vraiment de voir que oui, il existe des arts populaires qui sont fabuleux, et oui, il existe des vortex cérébrales, et la ligne est très mince entre les deux. Je crois que nos bagages culturels sont très variés aujourd'hui, et non, on ne peut plus se définir en que quelqu'un qui écoute seulement du classique, par exemple, ou quelqu'un qui n'écoute seulement que du rap. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus diversifié, puis on a beaucoup plus de possibilités et d'accessibilité à différentes formes de culture. Maintenant, quand on regarde les statistiques, puis qu'on épluche un peu les modes de consommation en Amérique du Nord et même en Occident, ça pourrait s'appliquer à l'Asie, mais c'est pas mon champ de spécialisation. Mais on remarque que ce qui est le plus consommé, ben ça reste des divertissements de type blockbuster, ça reste de la musique qui est souvent façonnée avec un principe de copier-coller, c'est-à-dire des chansons qui se ressemblent énormément au niveau de la rythmique, des paroles. Bref, une forme de consommation massive qui tend vers une dilution de l'essence. Il n'y a rien de nouveau dans le propos. Il y a, par exemple, une prolifération des œuvres disponibles. Et au moment même où est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut consommer des œuvres de culture absolument extraordinaires avec Internet, ben, on remarque qu'au contraire, ce qui est massivement consommé, ce sont plutôt des œuvres qui sont, disons, plus une copie, une pâle copie de ce qui a déjà été fait.
Alors effectivement, sans tomber dans le débat sur l'élitisme, qui n'est pas du tout le sujet direct de ton essai, j'aimerais que tu précises ce que tu entends par art populaire et vortex cérébral, parce que l'avènement de la culture du divertissement illustre quand même le passage d'une société, on va dire, conservatrice aux idées bourgeoises qui considèrent la culture comme quelque chose de sacré, et peut-être l'avènement d'une culture aux valeurs, on va dire, plus libérales, marchandes ou capitalistes.
Oui, c'est une excellente question. En fait, et c'est souvent, c'était le cas de beaucoup de gens qui ont questionné mon livre ou qui l'ont encensé de façon positive. Donc, à savoir que non, je d'emblée, je ne suis pas du tout élitiste, même si voilà que je parle de divertissement actif et passif. C'est pas pour détruire un pan de la culture, mais simplement considérer que depuis notamment et surtout depuis les années 80, il y a eu un tournant où, effectivement, le néolibéralisme est vu s'inscrire au sein même des productions culturelles. Donc, ce qui veut dire que l'économie est le facteur numéro un de la production culturelle. Et par production culturelle, on entend de plus en plus le mot divertissement. D'ailleurs, si vous allez voir dans les rubriques ou que vous voyez, par exemple, l'ancien slogan de Archambault où le, je pense, le mot divertir revient constamment. Donc, on a maintenant culture et divertissement dans une même phrase. Alors que quand j'ai commencé mes réflexions et les réflexions qui dataient de l'université, en 2010, il était encore dissocié. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme divertissement et culture dans un seul même modèle. C'est d'ailleurs ce que, en politique, on a entendu dans les zones il y a quelques mois ou peut-être une année, là, que justement, culture et divertissement n'étaient qu'un. Fait qu'on va donner de l'argent à l'industrie du divertissement. Ça voulait dire on va donner de l'argent à l'industrie culturelle. Maintenant, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est biaisé et qu'il faudrait rappeler à l'ordre sans avoir une culture élitiste. Donc, par art populaire, j'entends une forme artistique, qu'elle soit de la chanson, du jeu vidéo, de l'art visuel, qui est extrêmement populaire. Par vortex cérébral, j'entends une forme de divertissement qui peut être aussi une forme d'art, mais qui va carrément nous plonger dans un binge-watching, qui va nous plonger dans une séquence de consommation pratiquement excessive de cette forme-là. Je compare souvent ça avec comme n'importe quoi, en fait, comme un verre de whisky, c'est l'exemple de Foster Wallace, mais tout de même, assez. Donc, tu sais, un verre de whisky par jour, c'est pas si mal, un verre de vin, c'est pas si mal, mais quand on est rendu à 11 par jour, c'est peut-être un problème. Et que même si ce qu'on consomme peut être considéré comme de l'art populaire, donc d'une certaine qualité et active, veut pas, si on est rendu à 6-7 heures de consommation, il y a quelque chose qui va, à un moment donné, se passer intérieurement de notre consommation. Donc, soit une forme d'anxiété qui va naître, soit une forme du fait qu'on ne bouge pas assez, qu'on est trop sur les écrans. Et à savoir que les arts que je parle, le divertissement que je traite est uniquement le divertissement numérique. Hein? Je fais ça, c'est une circoncision très importante à dire. Là. Donc, c'est vraiment tout ce qui a rapport de la télévision des années 60 à Internet, des réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qui passe à travers nos écrans, au pluriel, tout ce qui passe à travers nos écrans et qui, finalement, remplissent un peu nos journées, nos quotidiens, donc de formes de divertissement, qu'on pourrait dire d'une forme de dérive de l'esprit, parfois pour le mieux, parfois pour le moins bien. Il y a un exemple de ça, par exemple, pour surtout américain, c'est la marvelisation de la culture. Là. Tout Marvel, là, ça fait 8 ans qu'on nous bombarde de Marvel, c'est correct, Marvel, j'ai rien contre les super-héros avec ces schémas-là. Mais ça fait quand même le même schéma qu'on nous présente depuis 8 ans, puis qu'on ne fait qu'agrandir ces multivers-là, sans cesse, en nous représentant un scénario relativement pareil. Mm-hmm. On a beau dire qu'il y a des changements, c'est relativement le même scénario.
Ouais, tu l'abordes dans le livre en disant que la culture du divertissement a son paradis, en quelque sorte. Et même si cette idée peut paraître réductrice, les États-Unis seraient ce paradis. En quoi nos voisins du Sud jouent-ils un rôle déterminant, à ton avis, puisque tu parlais des Marvel? En fait, tu parles plus d'américanité.
Pourquoi les États-Unis? Les États-Unis ont toujours été Hollywood et les États-Unis en général, la courroie de transmission d'une forme d'idéologie qui passe par le divertissement. Okay? Hollywood a toujours dit, non, nous, on fait des films, c'est comme des toasters avec des images. Il n'y a pas de politique. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a énormément de politique et il y a énormément d'emphase mise sur une forme de divertissement qui a su conquérir et qui sait encore conquérir la planète. C'est incroyable quand même quand on y pense à des événements monstres comme Star Wars. Moi, je dis toujours Star Wars, c'est le film des films. Et c'est le seul film le quatrième épisode, en fait, donc le premier à être paru. Si on regarde le schéma narratif de ce Star Wars-là, il est parfait dans tous les sens du terme. Tout y est du mythe du grand héros, de l'amour, des mythes des méchants, le bien contre le mal, on peut y voir, il y a la tendance politique. Et ce qu'on remarque par après, c'est que tous les autres Star Wars vont répéter ce schéma-là. Et plus encore, tous les grands blockbusters vont imiter ce schéma narratif-là. Et il n'y a pas juste Star Wars, il y en a quelques grands aussi qui ont fait des schémas narratifs, mais ça se réduit rapidement à la racine carrée. Et là, ce qu'on peut voir avec Star Wars, par exemple, c'est qu'on a beau agrandir l'univers de Star Wars par Disney, donc de l'agrandir, de créer des nouvelles séries, de créer des nouveaux personnages, ou de les ramener, mais on se rend compte que finalement, les schémas narratifs sont toujours pareils. Ce sont les mêmes. Et ce sont les mêmes depuis la fin des années 70.
Ouais, d'ailleurs, cette partie-là est vraiment intéressante dans ton livre parce que tu abordes aussi la problématique du héros. Le héros, la superstar, la vedette, devient l'instrument qui impose une norme, une forme de lecture du monde obligatoire. Tu as cette formule. En fait, le fusil est un peu aux affiches de films ce que le cumshot est à la pornographie, un archétype. Cela dit, on peut citer bon nombre d'exemples de critiques de la société, d'œuvres qui critiquent, même d'œuvres américaines qui critiquent la pensée unique. On peut penser au hasard à Easy Rider, L'équipé sauvage, Docteur Follamour. Bon, c'est un peu, ça date, mais c'en est quand même. Mais tu précises quand même que cette critique n'a peut-être pas toujours ses effets. Alors pourquoi ?
Parce que on veut le même scénario constamment. On veut être rassuré. Parce que quand on se met dans une position de divertissement, on veut surtout pas se mettre dans une position de questionnement. Et c'est pour ça que je trouve fascinant moi, les films, par exemple, de Jane Campion, hein, où elle va justement jouer avec les archétypes et les détourner. Donc, son dernier film, c'est exactement ce qu'elle va prendre. Moi, ça m'intéresse énormément. Mais, force est d'admettre, c'est un pan des consommateurs qui vont y trouver leur compte. Mais quand on regarde dans les méga-productions et ce qui fonctionne le plus statistiquement parlant, parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Moi, je me base sur les statistiques et les faits qui ressortent, et non pas sur chaque consommation individuelle. C'est vraiment de la macro-sociologie que j'essaie de faire là. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les consommateurs, à travers bon, même, recherchent des scénarios qu'ils connaissent, dans lesquels ils sont à l'aise. Donc, ne jamais être trop confronté et ne jamais trop déranger. Je reviens avec l'exemple de Star Wars. C'est parfait. C'est un film c'est des films qui sont faits pour les 5 ans à 99 ans. Il n'y a pas de sang. Et les méchants sont représentés par des costumes, qui définissent très bien c'est quoi le bien et le mal. Donc, aucun questionnement. Très peu de zones grises.
Dans le cadre de ce livre, tu abordes de nombreuses références et des signatures variées. En intro, je citais Guy Debord, Jean Baudrillard, David Foster Wallace, Gilles Lipovetsky, voire George Lucas, si on parle beaucoup aujourd'hui. Sans oublier Adorno, Barthes, Bourdieu, Noam Chomsky et bien d'autres. Alors, parlant de références, il y en a une qui t'a beaucoup marqué, tu l'écris, c'est la découverte de l'écrivain américain David Foster Wallace, qui était déterminante, et tu écris « Ça m'a fait l'effet d'un premier lendemain de veille au Bacardi et à la crème de menthe.
» Ouais, mais c'est assez David Foster Wallace, c'est un écrivain américain, donc un peu mitigé en ce moment, donc la pensée m'habite encore beaucoup, puis je peux pas le nier, donc effectivement, donc une critique de la culture. Donc pour lui, ben c'est ça, le divertissement était devenu une source d'anxiété collective et il nous guidait littéralement vers un mur où on était juste en train d'alimenter des fausses réflexions. Donc l'idée du faux et de la permanence, de l'omniprésence des divertissements au schéma narratif identique était pour lui l'amoindrissement littéral de notre culture. Mmh. Ah. Maintenant, avec du recul, je suis un peu plus nuancé, je crois, que lui, mais c'est quand même une pensée qui m'habite encore.
Alors, tu parles également de pornographie dans le livre. Sa démocratisation a des effets réels sur les pratiques sexuelles. On parle de performance, de représentation mécanique de l'acte sexuel. En même temps, cette surexposition, l'hypersexualisation que cela entraîne, entraîne également un retour en force de la pudeur, de la peur sans doute du regard jugeant. Alors finalement, la logique de masse exerce-t-elle aussi une forme de censure?
Grande question. Question sensible. Question auxquelles je pense qu'il va nous falloir plusieurs années pour arriver à répondre. Je pense qu'on est trop collés, là. Je pense qu'on est vraiment trop collés. Je ne voudrais pas prendre la parole, mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un décalage. Il y a un grand décalage qui s'inscrit et qui s'insinue dans ce qu'on appelle la liberté d'expression versus la liberté de faire ce qu'on veut faire et versus ce qu'on juge ce qui est bon ou pas. Et j'ai l'impression que tout le monde a le même discours en disant on a tous le droit de faire ce qu'on veut faire, mais tout le monde a le double discours en disant oui, mais il faut surtout pas faire ça, surtout pas faire ça. Et là où moi je trouve que le divertissement a un rôle à jouer parce que il y a un rôle à jouer si on en consomme autant. Et on peut pas dire qu'il est en dehors de nos vies. Il est à ce point ancré dans nos vies que le divertissement a forcément des prises de position à prendre. C'est la force des choses. On a beau dire, ah non, non, mais on fait juste de la pornographie qui est consommée et on n'a aucune prise de position sur, finalement, la domination de l'homme blanc ou les filles. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je veux dire, la diffusion et la production de pornographie est quand même, et la consommation, les consommations sont quand même énormes, faut en parler. Et qu'est-ce qu'on consomme, c'est ça là, qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je pense que Virginie Despentes, là-dessus, elle avait déjà une belle réflexion et elle a peaufiné sa réflexion plus récemment. Et finalement, c'est de dire, ben oui, ça fait quand même 30 ans qu'on voit le même scénario, le même schéma, puis tout le temps des gars qui accentuent la violence de plus en plus et c'est de plus en plus consommé.
Tu cites cette phrase dans ton livre, de toute façon, la phrase étant « On demande au X ce que l'on craint de lui, dire la vérité sur nos désirs ». C'est la fameuse phrase de Virginie Despentes. Mais s'il y a un sujet qui te passionne, en plus de celui de la bière, ce sont bien sûr les jeux vidéo, parce que tu en parlais tout à l'heure un petit peu. Alors moi, je suis un petit peu plus largué que toi sur le sujet, je l'avoue. Mais je te pose ou te repose un peu la question, celle que tu poses dans le livre. Le vidéoludisme est-il un art, toi qui cites Fallout, Last of Us, L.A. Noire, Minecraft?
Alors, le jeu vidéo, c'est l'abattement. Hein. C'est vraiment la grande bébite, là, je trouve, moi, qui est la plus intéressante à analyser ou, en tout cas, à appréhender en ce moment, parce qu'il y a énormément de ça bouge beaucoup, ça bouge rapidement, et il y a énormément d'argent qui circule dans cette industrie-là, et c'est quand même très créatif. La question que je pose au départ sur les jeux vidéo, c'est de savoir comment qu'on le définit. Parce que le jeu vidéo n'est pas encore considéré comme un art officiellement, mais a de plus en plus de prix d'art artistique, consacré notamment réalisation, scénario, musique, l'image, tout ça. Il y a donc de plus en plus de prix artistiques, mais ce n'est pas considéré officiellement comme un art. Ensuite, c'est de plus en plus reconnu comme un sport officiel, mais ce n'est pas encore un sport officiel, mais les e-sports sont des formes de sport qui attirent des milliers de gens, qui génèrent des millions. Bref, c'est un sport qui s'en vient pratiquement dans les rangs là, des grands sports pratiqués, mais il n'est pas encore, au niveau social, accepté comme ça. Et finalement, le troisième volet, c'est la forme de divertissement qui peut te laisser, bien plus que les séries télé, te laisser scotché dans un écran 12 heures par jour sans aucun problème. Mmh. Il y a des consommateurs de jeux vidéo, sans aucun problème, peuvent passer des journées entières sur la rivière dans l'écran. Donc bref, on a affaire à une espèce de bibitte qu'on ne sait pas trop où classer, comment le faire, mais qui peut servir énormément de points. Et je crois que il y a un potentiel immense à l'intérieur du jeu vidéo pour justement faire du divertissement quelque chose d'actif. Actif, oui, au sens que nos mains s'agitent et notre cerveau s'agite pour jouer, mais aussi actif sur les changements sociaux. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Par exemple, de faire des jeux vidéo où les schémas justement de blockbuster sont remis en question, où les héroïnes deviennent soudainement très nuancées et très dans des zones très grises, pourtant consommées à grands coups de millions, quoique quasiment autant que les films, mais en se permettant des libertés d'expression qui je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'on a une forme d'art potentiel qui est moins figée que le cinéma ou les séries télé.
Pour finir avec l'avancée technologique, est-il possible de croire que l'humain va échapper à sa robotisation finale, à vivre des émotions allongées dans un caisson insonorisé avec seul un cerveau branché 24/24? Est-ce que le fun immortel est le fantasme ultime selon toi?
Oui, je crois qu'il l'est en ce moment. Je crois que c'est la projection ultime, c'est de vivre dans une espèce de divertissement absolu où est-ce que tout le corps et l'esprit y est. Maintenant, moi, je crois que ça évolue très vite et je regarde les jeunes générations arriver et je me dis, ça me surprendrait pas qu'il y ait un regard plus sévère par rapport au temps de consommation de ces divertissements-là. Et c'est vraiment pas par rapport à juger ce qui est bon ou pas, mais par rapport à qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans pour arriver encore à remettre en question les changements climatiques? comment c'est arrivé dans la narration sociologique, dans la narration sociale, qu'on arrive à remettre en question encore, où on se dit on ne pourra rien faire, où on se dit oh mon Dieu, ça relève de plus grand de moi. Et moi, je pense que c'est pas la seule raison, évidemment, mais je pense qu'il y a une grande partie qui peut venir de ça, c'est-à-dire de se divertir à mort, là. De rechercher à surtout pas se remettre en question, changer nos modes de consommation, changer nos modes de vie. Sinon, on les change pour les remplacer par quelque chose qui est vert. Ça fait partie pour moi aussi du divertissement. Mais fondamentalement, remettre en question nos choix, remettre en question nos formes d'économie, nos formes de politique, nos formes même de disposition sexuelle dont à l'intérieur de la société. Et tout ça, et, ben oui, c'est peut-être, bien peut-être que c'est parce qu'on passe 11 heures par jour à se répéter le même narratif. Quand je dis « on », c'est dur, parce qu'il y a plein de gens qui le remettent en question. Je parle statistiquement, globalement, massivement. Je vous ai forcé d'admettre que ça s'aligne toujours dans le même sens quand même. Mm-hmm. On fait encore des films pour enfants de façon... Alors que Miyazaki existe, par exemple, mais on fait encore des films pour enfants où est-ce que les personnages ont environ une neurone là, de disponibilité, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'images secondes avec beaucoup de couleurs. Mais on a déjà des scénarios exceptionnels, comme Miyazaki, justement, mon ami Totoro. C'est un exemple. Pourquoi on n'est pas capable d'en produire davantage? Je vais mettre davantage de l'avant, par exemple, ces récits-là. Je parle par expérience, j'ai deux enfants, puis je vais au cinéma, puis je veux dire, je m'en tape des films bizarres, là. J'y consomme, bien sûr, là. Je suis pas exclu, j'y prends pas de haut. Mais merde, je suis vraiment tanné de regarder le même genre de chien combattre l'humanité, là. C'est complètement débile, là. La critique est pas là. Sinon, elle épouse des codes qui sont déjà mis en place, là. Donc,
voilà, comment...
Ouais, je m'égare.
Comment s'y prendre pour vivre dans un univers bombardé d'informations et de stimulants sensoriels en tout genre? Ce livre vous permet de prendre un recul nécessaire sur notre surconsommation de produits culturels et d'en comprendre les enjeux pour l'avenir. La culture du divertissement, art populaire ou vortex cérébral, par Sébastien Sainte-Croix-Dubé, paru en 2022 aux éditions Alias. Merci Sébastien pour ta visite à Mission Encre Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 36, le chapitre 390. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Rodolphe Lannes pour J'habite une île, paru en 2022 aux éditions Le Méac, ainsi qu'en seconde partie d'émission Sébastien Sainte-Croix-Dubé qui nous présente la culture du divertissement, art populaire ou vortex cérébral, paru en 2022 aux éditions Alias. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso era bom.
Não, poderia ser vídeo que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar bem pra ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Obrigada, Duduca!
Agora
não come
na cabana carioca, Duduca, que vai pesar mais 10 quilos.
Olha, depois já viu, né?
Olha aí, gente.
Então dá certo.
Não dá certo.
Agora também, mas...